La mort de Michel Foucault, le philosophe et historien français qui était professeur au Collège de France, est mort aujourd'hui dans un hôpital parisien. C'était une personnalité de premier plan qui disparaît ainsi, un penseur non conformiste à qui l'on doit des pages tout à la fois troublantes et magnifiques. On lui doit notamment une histoire de la folie tout à fait bouleversante. Hervé Brusigny.
Michel Foucault n'aimait guère la télévision. Il y a 8 ans, pourtant, il avait accepté de venir à l'émission Apostrophe, mais il avait refusé d'y parler de La volonté de savoir, son dernier ouvrage de l'époque.
Eh bien, je ne vais pas parler du mien pour une raison. Première raison, c'est qu'au fond, on écrit des choses un peu parce qu'on les pense, mais aussi beaucoup pour ne plus les penser. Et puis ensuite...
Car l'intellectuel Foucault aimait rire. Au beau milieu de ses livres, assis devant sa machine à écrire, l'image de celui qui revendiquait le terme d'intellectuel, même si, disait-il, cela doit donner la nausée à certains, eh bien cette image cadrait mal avec le comportement classique du philosophe. Foucault essayait d'être hors institution.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
L'équipe de Déshabillez-moi est heureuse de vous retrouver cette année pour continuer à déshabiller avec vous la pensée philosophique. Au mois de novembre, nous fêtons les 1 an de Déshabillez-moi. Pour célébrer dignement cet anniversaire, Mélanie et moi-même, nous vous avons réservé un numéro spécial. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir Anaïs.
Pour une rentrée tout en douceur, Déshabillez-moi déshabille avec vous un philosophe célèbre malheureusement décédé. Une fois n'est pas coutume, pas d'invité mystère ni de micro-trottoir, uniquement la parole d'un homme qui a su marquer de son empreinte la pensée contemporaine. Déshabillez-moi ce soir ne veut pas simplement rendre hommage à un intellectuel reconnu. Il s'agit plutôt de continuer à interroger la pertinence d'une pensée qui sut se rendre en son temps incontournable. Mais la pensée résiste-t-elle au temps ? Comme disait Gilles Deleuze, le travail du philosophe est avant tout celui de créer des concepts. Dans quelle mesure ces concepts permettent-ils de rendre compte d'une certaine réalité, et ce de façon pérenne ? Qu'est-ce qui fait la force d'une pensée ? Serait-ce justement son attitude à résister au temps ? Serait-ce sa capacité à nous renseigner sur le monde en résistant à toute forme de relativisme ? Pourquoi certaines pensées se retrouvent sacrifiées sur l'autel du temps qui passe, alors que d'autres demeurent des outils pertinents pour interroger des époques successives ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir. Mais je sens bien que le suspense devient intenable et que prostré sur votre fauteuil ou bien crispé sur le volant de votre automobile, vous retenez votre souffle afin de savoir qui nous avons décidé de déshabiller ce soir dans ce numéro spécial.
Qui
Alors Mélanie, si je dis folie, savoir, pouvoir ou punir, on me répond...
Jean-Pierre Foucault.
Non, pas Jean-Pierre, je crois.
C'est l'autre.
C'est l'autre, c'est ça. Et oui, Michel Foucault. C'est à cet intellectuel hors norme qui ne cessa justement de jamais de questionner le concept même de norme que nous nous attaquons ce soir. S'il nous a semblé pertinent de faire revivre ne serait-ce que pendant une heure la pensée de Michel Foucault, c'est car celle-ci demeure un outil pertinent pour faire face à certaines problématiques qui ne sont pas étrangères au monde contemporain. En effet, Michel Foucault était un penseur atypique qui s'est attaché à analyser un certain nombre de réalités sociales, comme le traitement de la folie, la question du savoir, de la punition sociale, etc., afin de dégager quels étaient les mécanismes de pouvoir à l'œuvre dans ce type d'institution. Il s'agit donc de déconstruire ces structures sociales qui peuvent sembler de prime abord intangibles dans le but de mettre à jour les logiques de pouvoir qui les sous-tendent. Voilà tout l'enjeu de la pensée de Foucault. Comment identifier les dynamiques de pouvoir à l'œuvre dans nos sociétés afin de mieux s'en désolidariser ? Et cette question reste plus que jamais d'actualité. Redonner la parole aujourd'hui à Michel Foucault, c'est s'autoriser à réinterroger les institutions sociales sous le prisme de la problématique qui réarticule ensemble la dimension du savoir et celle du pouvoir. Redonner la parole aujourd'hui à Michel Foucault, c'est interroger la norme et ceux qui en sont exclus. C'est remettre en cause les catégorisations sociales qui donnent la part belle à certains types de discours, tout en disqualifiant ceux qui s'en éloignent. C'est questionner la folie au regard de la norme, c'est interroger l'illégitime au regard du légitime. Enfin, redonner la parole aujourd'hui à Michel Foucault, c'est un acte politique, un acte militant, un acte qui vise à rappeler la nécessité toujours renouvelée du dynamisme de la pensée, un acte qui vise à rappeler qu'il faut se méfier des évidences et nourrir au fond de soi une réflexion critique toujours renouvelée. Juste avant de laisser la parole à Michel Foucault, un bref rappel pour nos auditeurs qui découvriraient avec nous ce soir le philosophe. Michel Foucault est né à Poitiers en 1926. Entre 1970 et 1984, il fut titulaire d'une chaire au Collège de France qu'il nomma « Histoire des systèmes de pensée ». Il interrogea essentiellement les mécanismes de pouvoir au travers des concepts de savoir, de subjectivation, de biopouvoir, etc. Il est mort en 1984, je n'en dis pas plus, et laisse à Mélanie le soin d'interroger le philosophe.
Et vous ?
Déshabillé fou !
J'ai donc l'honneur,
oui,
l'honneur d'interviewer Michel
honneur.
Foucault. Bon, bah, il est clairement pas là hein, dans le studio, malheureusement.
Mais on l'a fait revivre un peu, on l'a fait sortir de sa tombe.
C'est ça, on a trouvé quelques extraits de Michel Foucault donc, à travers plusieurs vidéos, émissions de radio, télé auxquelles il a été invité. Et on essaie justement de lui reposer des questions et de voir un peu tout ça avec lui, de comprendre un peu mieux qui est Michel Foucault et de vous le présenter un peu plus en détail. D'abord, on a entendu juste avant le générique de cette émission un petit extrait sur la mort de Michel Foucault dans lequel on entendait des commentaires rapportés par le journaliste qui disait que Monsieur Foucault était un philosophe non traditionnel. Donc Monsieur Foucault, je vais m'adresser directement à lui, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces commentaires-là qui disent que vous êtes un philosophe non traditionnel? Est-ce que vous définissez vous-même comme un philosophe non traditionnel? Et est-ce que vous définissez vous-même simplement comme un philosophe?
Non. Je ne dirais pas savant, parce que savant, ça a un sens très précis. Ben, un homme de savoir, un homme qui manipule des savoirs, qui en fait apparaître, qui en disqualifie d'autres, qui se meut dans cette espèce de jeu. De jeu du savoir. Vous savez, vous êtes plus jeune que moi, vous n'avez peut-être pas été, comme je l'ai été au moment de mon adolescence, impressionné par un livre qui était le jeu de Perles de Verre, qui est tout de même la grande épopée ou la grande mythologie de l'intellectuel du XXe siècle. Voilà, on est dans le jeu. Le problème, c'est de faire fonctionner ce jeu, savoir où on le fait fonctionner, sur quoi on l'articule, et si effectivement le jeu purement ludique auquel finalement on est voué peut tout de même communiquer avec un certain nombre de processus extérieurs au jeu, processus sérieux, processus historique. Voilà l'inquiétude et voilà le plaisir.
Comment aimeriez-vous être perçu ? Comment aimeriez-vous être lu ?
Bon, ce n'est pas du tout que j'ai l'intention d'être lu par des centaines de milliers de personnes, c'est pas ça le problème. Je voudrais simplement que quand on me fait l'honneur, le plaisir, etc., de me lire, eh bien, on ne s'ennuie pas trop. C'est-à-dire, premièrement, qu'on comprenne exactement ce que je veux dire. Et je préfère, à la limite, en dire un petit peu moins que de dire quelque chose qui serait exactement ce que je voudrais dire, mais qui se trouverait n'être pas accessible pour telle ou telle raison au public. Et puis, je voudrais que les gens aient plaisir à me lire. Alors souvent, les gens me disent « Oh, bah, vous faites des préciosités, vous écrivez avec une plume un peu entortillée, un peu précieuse, un peu baroque, bon, tant pis pour moi. » Mais je ne nie pas que je veuille le faire. Enfin, je ne nie pas que je voudrais écrire de telle manière que les gens, en lisant, éprouvent un espèce de plaisir physique. Je dirais que presque c'est la politesse de celui qui écrit.
Comment alors enseigner la philosophie ou comment enseigner tout court ?
Bon, l'enseignement, là. Je suis un enseignant, un minimum d'enseignant. Je n'ai pas l'impression d'enseigner, c'est-à-dire d'exercer par rapport à mon auditoire un rapport de pouvoir. L'enseignant, c'est celui qui dit, écoutez, voilà, il y a un certain nombre de choses que vous ne savez pas, mais que vous devriez savoir. Ça comporte donc une première étape qui est celle que j'appellerais de la culpabilisation, si vous voulez. Bon, deuxièmement, ces choses que vous devez savoir, moi, je les sais et je vais vous les apprendre. Et c'est le stade de l'obligation. Et puis, quand je vous les aurai enseignées, il faudra que vous les sachiez. Je vérifierai si vous les savez. Vérification. Enfin bon, toute une série de rapports de pouvoir qui sont mêlés à l'enseignement. Là, vous comprenez, au Collège de France, les cours sont libres. C'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent. N'importe qui. Ça peut être un colonel en retraite, mais ça peut être un lycéen de 14 ans. Si ça l'intéresse, il vient. Si ça ne l'intéresse pas, il ne vient pas. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné ? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre ? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. C'est son travail, il est payé pour travailler à longueur d'année, et puis 12 fois par an, Il vient donner, en quelque sorte, dresser le bilan de son travail, le présenter à un auditoire, et puis c'est à l'auditoire de dire ou de montrer s'il est intéressé ou pas. En tout cas, moi, quand je vais faire mes cours au collège, j'ai le trac. J'ai le trac absolument comme quand je passais des examens, parce que j'ai l'impression que, au fond, les gens, le public, viennent vérifier mon travail et montrer s'ils sont intéressés ou pas. Et s'ils n'ont pas l'air intéressés, je suis assez triste, vous savez.
S'il y avait une chose à enseigner, ce serait laquelle ?
C'est que le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Enfin, qu'il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement, hautement agréable. Et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela, que l'enseignement ait presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique, moi je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste. Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Mais moi, je pense, n'est-ce pas, imaginez que les gens aient une frénésie de savoir comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Eh bien, vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles ? Ben, ça serait le désastre social total. Total. Et il faut bien, si l'on veut restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes sociales qui sont précisément la concurrence ou les hauts salaires en fin de course, etc. Mais je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir, une libido si indie, comme disent les gens savants.
Merci Michel Foucault. Pour vous rendre hommage, on va faire une pause musicale qui vous est dédiée.
Thank you.
C'était le groupe Foucault Funk avec la chanson The Michel Foucault Postmodern Blues. Alors, il y a un Michel Foucault Postmodern Blues, Mélanie. Est-ce que tu en es victime ?
Apparemment, mais alors c'est très drôle ce groupe parce que j'ai découvert par hasard tout à l'heure sur YouTube en cherchant des musiques en rapport avec Michel Foucault. Et on a donc, il y en a une.
Apparemment, il y a même un groupe qui s'appelle Foucault Funk.
Foucault Funk, qui n'a pas beaucoup dû sur Facebook, sur YouTube. J'espère
1949,
vraiment.
Apparemment.
C'est quand même pas beaucoup.
C'est pas grand chose. On espère les faire connaître.
Ils sont en tout cas beaucoup moins connus que Michel Foucault. Ouais,
manifestement.
C'est sûr. On continue donc notre entretien avec Michel Foucault. On a un petit son à lui faire écouter et on va le faire réagir ensuite.
On va voir ce qu'il a à dire.
Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui n'avaient pas de shampoing. Allô ? Non mais allô, quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô ? Allô ? Je sais pas, vous me recevez ? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux.
Vous aurez sans doute, Anaïs, Monsieur Foucault, reconnu Nabila.
Je ne sais pas si Monsieur Foucault a reconnu Nabila véritablement.
Je ne suis pas sûre.
La connaît personnellement.
Dans tous les cas, il a peut-être quelque chose à nous dire sur Nabila, sur cette Nabila et sur notre siècle, sur notre époque.
Est-ce que Nabila a été l'élève de Michel Foucault ?
Peut-être au Collège de France, on pourrait lui demander.
On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi.
Il faut donc sortir des feuilles de papier, du carré blanc d'une feuille de papier.
Et alors Nabila, lieu clair ou obscur des hétérotopies de Michel Foucault.
Très très bonne question, Anaïs. En tout cas, ce qui est intéressant avec Nabila, c'est que on peut imaginer donc étudier à travers ce personnage qu'est Nabila, étudier notre époque. Michel Foucault, comment on peut parler de notre époque? Est-ce qu'on peut faire une ethnographie, une ethnologie de notre époque?
J'aurais voulu que nous puissions considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étrangers à nous-mêmes que la culture, par exemple, des Arapèches ou des Zoulis ou des Nambikwara ou comme la culture chinoise, par exemple. Bien sûr, il y a très longtemps que nous essayons de ressaisir, soit par les travaux des historiens, soit par les travaux des sociologues, nous essayons de ressaisir comme un objet, comme une chose qui serait là devant nous, notre propre culture. Mais les historiens étudient essentiellement les phénomènes économique. Les sociologues, ils étudient quoi ? Eh bien, ils étudient les comportements affectifs, les comportements politiques, les comportements sexuels. Je crois que, jusqu'à présent, on n'a jamais considéré comme un phénomène étranger à nous-mêmes notre propre savoir. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de traiter comme si c'était quelque chose qui était là devant nous, comme si c'était un phénomène aussi étranger et distant que la culture des Nambikwara ou des Arapèches, tout ce savoir occidental qui s'est formé depuis le fond de l'âge grec, et c'est cette situation ethnologique de notre savoir que j'ai voulu reconstituer.
Tout au long de votre vie, vous avez essayé de poser ce regard, votre regard de savant sur le monde qui vous entourait. Ça, vous en avez tiré plusieurs ouvrages, dont deux très célèbres qu'on a choisi de traiter un peu plus en détail aujourd'hui, Histoire de la folie à l'âge classique et Surveiller et punir. Ce sont surtout les deux thématiques que vous abordez dans ces ouvrages, qui sont donc celle de la folie et celle de la surveillance et de la punition, qui nous intéressent particulièrement, puisqu'elles se regroupent, elles sont recouvertes par une thématique beaucoup plus large qui est celle du pouvoir de la normalisation. C'est avec la question de la folie que vous entrez dans cette thématique-là. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de la folie ?
Bon, il s'est trouvé que pour des raisons biographiques, pas nécessaires, j'ai connu ce que c'était qu'un asile, j'ai entendu ces voix-là et j'ai été, je crois, comme quiconque, bouleversé par ces voix. Je dis quiconque, j'allais dire, à l'exception des médecins. Et quand je dis à l'exception des médecins et des psychiatres, c'est pas du tout par agressivité contre eux. Je veux dire que leur fonctionnement statutaire filtre tellement ce qu'il peut y avoir de cri dans la parole d'un fou qu'ils n'entendent plus que la part intelligible ou inintelligible du discours.
C'est donc à partir de cette question de l'asile que vous êtes apparu la question du pouvoir.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est une souffrance qui soigne de tous les asiles. Et maintenant, voyez-vous, c'est une chose qui est connue absolument de tout le monde. Il n'y a plus qu'une arrière-garde de psychiatre à ne pas savoir quelle somme de souffrance ou de révolte porte le savoir-pouvoir qu'ils font régner à l'asile.
Michel Foucault, qu'est-ce qu'un fou ? Est-ce qu'on peut encore utiliser le terme de fou ?
Le mot qui me paraît le plus perfide, c'est pas le mot fou. Mais si vous voulez, le mot est justement tellement galvaudé maintenant qu'il n'a plus beaucoup de pouvoir en lui. Le mot que je redoute, moi, c'est malade mental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce personnage indécis dont on riait, qu'on excluait, qu'on disqualifiait, mais à la limite, si vous voulez, qu'on acceptait, qui faisait partie du plasma social, à partir du moment où cet individu a reçu un statut précis, il est devenu le malade. Et en tant que malade, il doit être respecté, mais en tant que malade, il doit aussi tomber sous un pouvoir qui est le pouvoir canonique et institutionnel du médecin. Et c'est là, c'est si vous voulez, le passage du fou au malade, qui est apparemment une requalification, mais qui, à un autre niveau, est une prise de pouvoir. C'est cela qui m'a intéressé.
À partir de quel moment commence-t-on à parler de la maladie mentale et comment cette notion naît-elle ?
Oui, enfin la naissance, justement, de cet ensemble complexe constitué par une maladie, une forme de maladie considérée comme maladie mentale. Une catégorie de médecins appelés psychiatres, une série d'institutions dans lesquelles vous trouvez, bien sûr, les asiles, mais aussi les instituts médico-psychologiques, mais aussi les cabinets de psychanalystes, mais aussi les cabinets de psychiatres, etc. C'est tout cet ensemble que j'appelle en gros la naissance de la maladie mentale. C'est de la folie comme institution, si vous voulez, dans notre société.
Vous montrez dans votre ouvrage l'histoire de la folie à l'âge classique, la souffrance qui est celle des personnes qui sont internées dans les hôpitaux psychiatriques. Selon vous, faut-il supprimer ces hôpitaux ?
Il faut croire qu'ils ont été considérés comme nécessaires par notre société, parce que vous voyez quelle extension ils ont. Et ce n'est pas tellement... Bon, au départ, je me suis intéressé à l'asile, à ces hauts murs, à ces espaces tout de même très effrayants qui sont là, en général, à côté des prisons, au cœur ou à la limite des villes, espaces infranchissables, espaces trous dans lesquels on entre, mais dont on sort beaucoup plus rarement, et dans lesquels règne donc ce pouvoir sans doute attentif, sans doute méticuleux, sans doute garanti par la science, entre guillemets. Qui représente tout de même, par rapport aux normes, règles du fonctionnement social général, d'extraordinaires exceptions. Bon, alors j'ai commencé par m'intéresser à cela. Puis finalement, ce pouvoir psychiatrique, si vous voulez qu'on l'appelle comme cela, pouvoir psychiatrique, est-ce que ça perfidie ? Enfin, est-ce qu'il n'est pas d'autant plus puissant qu'il est plus insidieux ? C'est-à-dire au moment où vous le rencontrez ailleurs que dans son lieu de naissance ? Lorsqu'il apparaît fonctionnant, non pas dans son domaine normal d'ingérence qui est la maladie mentale, mais partout ailleurs. Le psychiatre à l'école, qui justement, lorsque un petit garçon ne réussit pas très bien ses examens, eh bien, vient fourrer son nez et dit « mais enfin, qu'est-ce qui se passe là-dessous ? Quel est le drame affectif ? Quel est le problème familial ? Quel est l'arrêt de développement psychophysiologique ?» psychoneurologique qui est à l'origine de cela. Bon, alors vous rencontrez le psychiatre. Problème sexuel de l'adolescent, qu'est-ce que fait la famille ? Il envoie au psychiatre ou il envoie au psychanalyste. Commet un acte délictueux en prison, examen psychologique. Il passe aux assises, examen psychiatrique obligatoire, etc.
C'était Radiator Hospital avec la chanson Cut Your Bangs. On est donc toujours avec Michel Foucault.
Toujours.
Dans Tes Habits et Moi.
En bonne compagnie.
Exactement. Plutôt sympa. On a parlé de l'aliénation, de l'asile psychiatrique et de son extension en fait, à toute la société. Vous partez donc de ce pouvoir de normalisation de la psychiatrie pour tendre ensuite vers la question pénale dans votre ouvrage « Surveiller et punir ». Et on va lire un petit extrait. Anaïs, tu nous as proposé un petit extrait de « Surveiller et punir », puis on réagira après... à cette lecture.
Alors, c'est un extrait qui se situe à peu près au début de l'ouvrage. Mais le corps est aussi directement plongé dans un champ politique. Les rapports de pouvoir opèrent sur lui une prise immédiate. Ils l'investissent, le marquent, le dressent, le supplicient, l'astreignent à des travaux, l'obligent à des cérémonies, exigent de lui des signes. Cet investissement politique du corps est lié, selon des relations complexes et réciproques, à son utilisation économique. C'est, pour une bonne part, comme force de production, que le corps est investi de rapports de pouvoir et de domination. Mais en retour, sa constitution comme force de travail n'est possible que s'il est pris dans un système d'assujettissement, où le besoin est aussi un instrument politique soigneusement aménagé, calculé et utilisé. Le corps ne devient force utile que s'il est à la fois corps productif et corps assujetti. Cet assujettissement n'est pas obtenu par les seuls instruments, soit de la violence, soit de l'idéologie. Il peut très bien être direct, physique, jouer de la force contre la force, porté sur des éléments matériels et pourtant ne pas être violent. Il peut être calculé, organisé, techniquement réfléchi. Il peut être subtil, ne faire usage ni des armes ni de la terreur et pourtant rester de l'ordre physique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un savoir du corps qui n'est pas exactement la science de son fonctionnement et une maîtrise de ses forces qui est plus que la capacité de les vaincre. Ce savoir et cette maîtrise constituent ce qu'on pourrait appeler la technologie politique du corps. Bien sûr, cette technologie est diffuse, rarement formulée en discours continu et systématique. Elle se compose souvent de pièces et de morceaux. Elle met en œuvre un outillage ou des procédés disparates. Elle n'est, le plus souvent, malgré la cohérence de ses résultats, qu'une instrumentation multiforme. De plus, on ne saurait la localiser ni dans un type défini d'institution, ni dans un appareil étatique. Ceux-ci ont recours à elle, ils utilisent, valorisent ou imposent certains de ses procédés. Mais elle-même, dans ses mécanismes et ses effets, se situe à un niveau tout autre. Il s'agit en quelque sorte d'une microphysique du pouvoir que les appareils et les institutions mettent en jeu, mais dont le champ de validité se place en quelque sorte entre ces grands fonctionnements et les corps eux-mêmes, avec leur matérialité et leur force.
Merci Anaïs.
De rien Mélanie.
Alors pourquoi tu as choisi cet extrait ?
Alors en fait, quand on réfléchit un petit peu avec Michel Foucault et qu'on étudie les textes de Michel Foucault, on se rend compte que voilà, le concept qui travaille l'œuvre de Michel Foucault, c'est le concept de pouvoir. Et il essaye justement de nous faire regarder les choses du quotidien, et peut-être des objets dont on n'a pas l'habitude, auxquels on n'a pas l'habitude de prêter attention, sous l'angle justement des rapports de force et de domination. Et commencer par l'objet le plus quotidien, c'est-à-dire celui auquel on a affaire le plus souvent, qui est notre corps, et le voir sous l'angle du prisme de domination, c'est-à-dire qu'il répond à un moment, il peut y avoir une prise de pouvoir sur le corps. Comment cette prise de pouvoir s'effectue ? Par quels moyens il peut y avoir prise de pouvoir sur nos corps ? Ça me semblait intéressant de commencer par ça.
Bien, merci beaucoup pour le choix de ce texte. Effectivement, on peut entrer à travers le corps dans cette question de la punition, puisque la punition au début était châtiment. On allait en torturer les coupables, on se vengeait physiquement sur leur corps.
On torture encore aujourd'hui les coupables.
On torture, effectivement, et c'est ce qu'explique d'ailleurs Michel Foucault, en disant que la torture n'est plus la même, mais qu'on la torture, on torture le corps tout de même. Pourquoi, Michel Foucault, avez-vous commencé à vous intéresser à la punition ? Cette punition, effectivement, elle existe depuis longtemps, depuis toujours même. Est-ce qu'elle a pris une nouvelle forme aujourd'hui ?
Non, enfin, en tout cas, on ne trouve vraisemblablement pas de groupes sociaux sans punition. Ce qui me paraît, en revanche, assez caractéristique de notre société, c'est la surveillance. Pour ça qu'à vrai dire, j'aurais dû appeler mon livre « Punir et surveiller ». La surveillance étant curieusement une des manières, je ne dis pas exactement de punir, mais de faire fonctionner le pouvoir punitif. Bon, parce que il me semble que dans la société, même encore au XVIIIe siècle, le nombre de gens qui échappaient effectivement aux lois sous le coup desquels normalement ils auraient pu tomber, était immense. Le pouvoir pénal, le pouvoir de punir, était un pouvoir discontinu, lacunaire, plein d'alvéoles, plein de trous. Ce qui explique d'ailleurs que lorsque, effectivement, on s'emparait d'un criminel, eh bien, les peines que l'on imposait étaient formidables. D'autant plus formidables que, justement, les autres couraient et qu'il fallait, comme on disait, faire exemple. L'effroi de la terreur devait compenser la discontinuité de la punition. Et il me semble qu'à partir de la fin du 18e, début du 19e, on a cherché à avoir un pouvoir punitif qui pouvait être plus doux dans la mesure même où il était plus continu et où en principe personne n'échappait.
Oui, mais alors comment punit-on aujourd'hui ?
C'est maintenant qu'on a une très très grande difficulté à punir. Un magistrat, bien sûr, les juges y punissent et ils punissent lourdement. Bon, mais si vous essayez de leur demander pourquoi ils punissent, comment ils justifient le fait de punir, c'est rarement justement en termes de châtiment, c'est jamais en termes d'expiation qu'ils vont vous l'expliquer. Ils vont vous dire que s'ils punissent, c'est finalement, bien sûr, pour faire exemple, mais surtout pour corriger, pour améliorer. Ils se prennent pour des techniciens du comportement, en quelque sorte. Le comportement de l'individu puni, qui, en principe, doit, au terme de sa punition, être amélioré. Correction également du comportement des autres, qui, par cet exemple, doivent comprendre que leur intérêt n'est pas de commettre une action de ce genre. Donc, le magistrat n'est pas, si vous voulez, l'agent de la souveraineté, du souverain qui fait expier un crime, il est le technicien du comportement qui doit mesurer la peine à l'efficacité correctrice qu'elle aura sur le coupable. Et du coup, vous voyez bien qu'il ne punit pas, il dit « je corrige ».
Mais alors, selon vous, à quoi sert la justice aujourd'hui et quel est le vrai rôle du juge ?
Si j'étais méchant, bon, je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. Bon, le grand événement qui s'est passé au cours du XVIIIe siècle, on croit toujours que c'est la réforme judiciaire, l'acquisition des libertés, etc. Il s'est passé au XVIIIe siècle quelque chose d'important, une invention pour laquelle on ne fait pas suffisamment mérite à ses inventeurs, surtout que c'est des Français. C'est la police. La police est une invention, enfin, sous sa forme moderne, est une invention du XVIIIe siècle et de la monarchie administrative. Et en fait, la police a été, depuis le XVIIIe siècle, une espèce de formidable instance de régulation sociale, de surveillance perpétuelle, de correction incessante du comportement des gens. Une instance, non pas tellement de justice que de normalisation. Il ne s'agissait pas tellement de faire appliquer la loi, que d'obtenir un comportement normal, conforme des individus. Et ça, c'est la police qui l'a fait. La police l'a fait pendant tout le XVIIIe siècle, dans les interstices d'un pouvoir judiciaire qui finalement était lâche, discontinu, inattentif, etc. Bon, et je crois que c'est cette fonction policière, dont on dit toujours qu'elle doit être subordonnée à la police, qui est au fond le vrai socle sur lequel fonctionne actuellement la justice. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement.
Ce pouvoir donc de normalisation de la police, pouvoir de normalisation sur lequel vous revenez très régulièrement dans toute votre œuvre. Et c'est malheureusement sur ça qu'on va devoir s'arrêter avant de passer à l'entretien psy, parce que quand même, monsieur Michel Foucault doit, il est obligé de passer par là quand même.
Ah, mais c'est la coutume d'en déshabiller-moi, pas c'est de déshabiller-moi sans entretien psy. Donc je crois que Mélanie, tu as concocté quelques petites questions un petit peu plus personnelles adressé à Michel Foucault.
Effectivement, est-ce qu'on fait une petite pause musicale juste
avant ?
Allez,
c'est ce que je me disais justement.
Allez, c'est parti.
C'est parti. Thank you.
écouter Cliché avec le titre Hélicon.
Déshabillez-moi.
Ça t'a plu, Anaïs?
J'ai adoré. Hein, Mélanie, quand tu secoues la tête, ça fait des mélodies.
Complètement. Et on va demander à Michel Foucault si, quand il secoue la tête, ça lui fait aussi des mélodies. Bon, ça va être compliqué de lui poser la question tout de suite. On va passer à des questions un peu plus traditionnelles.
Allez, l'entretien psy.
C'est exactement ça, l'heure de l'entretien psy. Ouais, on va commencer par la question du psy. Parlez-nous de votre enfance, Michel Foucault. Comment on en arrive à devenir Michel Foucault? Comment on en arrive au savoir?
Arriver au savoir, vous savez, on est dedans. On est dedans. Moi, je dirais que finalement, vous savez, quelqu'un comme moi, c'est-à-dire appartenant, né dans la petite bourgeoisie de province, est-ce qu'on n'a pas été élevé, biberonné au savoir avant même l'école primaire, tout un milieu dans lequel la règle d'existence, la règle de promotion, c'était d'en savoir un peu plus que l'autre, d'être un petit peu meilleur en classe. J'imagine même de mieux sucer son biberon qu'un autre, d'avoir fait ses premiers pas avant un autre, etc. Le concours, la compétition, en faire un peu plus que l'autre, être le premier. Quelqu'un comme moi, on a toujours vécu là-dedans. Alors, je suis pas arrivé au savoir. J'ai toujours été dans le savoir. J'y ai barboté.
Comment jugez-vous votre rapport au savoir?
Et je vous dirais, si je dis que j'ai barboté dans le savoir, c'est dans la mesure où, au fond, j'aimerais plutôt essayer de m'en débarrasser. Mais comme il n'est pas possible de se débarrasser de son savoir, tâcher de trouver d'autres voies, de trouver la diagonale, de biaiser, de trouver enfin quelque chose qui ne fait pas partie du savoir, mais qui mériterait de faire partie du savoir.
Est-ce que vous avez envie de repartir à zéro, Michel Foucault?
Tiens, c'est drôle ce que vous dites là, parce que c'est très vrai. C'est très vrai. Dans la mesure où j'éprouve ce sentiment de plaisir à être débordé, à voir que ça va plus vite et plus loin que moi. Oui, un très grand sentiment d'allègement, de liberté, et à la limite, l'envie de prendre une demi-valise et puis d'aller ailleurs, ou bien pour ne rien faire, ou bien pour faire toute autre chose. Oui, oui.
Alors Michel Foucault, on a parlé donc tout au long de cette émission du pouvoir. On a parlé du pouvoir des autres, on a parlé du pouvoir que vous pouvez critiquer, mais est-ce que vous aimez le pouvoir? Est-ce que vous aimez commander?
Oui, enfin, moi, quand je vous disais tout à l'heure, quand on fait l'amour, c'est des rapports de pouvoir. Tous les rapports de pouvoir sont tellement chargés d'érotisme. Alors là, c'est un domaine qui a été, je crois, très très peu étudié, qu'il faudra bien un jour essayer d'étudier. Ça fait tellement plaisir de commander. Ça fait aussi beaucoup plaisir d'être commandé, oui. Mais ça, alors, ce plaisir du pouvoir, à étudier.
Bien, merci beaucoup. Merci, Michel Foucault, de vous être prêté au jeu de l'entretien psy.
Merci beaucoup, Michel Foucault. On arrive au terme de notre émission. Le prochain numéro de Déshabillez-moi, ce sera dans un mois, à 18h, sur Radio Campus. Donc, on remercie Michel Foucault. Je remercie également Mélanie.
Avec plaisir, Anaïs.
Et je vous souhaite une très, très bonne soirée.